Bienvenue à BetaFinch, votre analyse d'earnings générée par intelligence artificielle. Je suis Alex, et je suis accompagné par Jordan. Aujourd'hui, nous analysons les résultats du premier trimestre 2026 de YTI Holdings. Avant de commencer, j'ai une déclaration importante à faire. Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement. Merci de cette attention. Maintenant, plongeons dans YTI.
Merci Alex. Quelle façon de démarrer l'année pour YTI? Les chiffres sont vraiment impressionnants. On parle d'un chiffre d'affaires de 380,4 millions de dollars au premier trimestre, soit une croissance de 8,3% en glissement annuel.
C'est vrai. Et ce qui rend cela encore plus intéressant, c'est qu'ils ont relevé la limite inférieure de leur prévision de croissance annuelle. Ils s'attendent maintenant à une croissance de 7% à 8% pour l'année complète, contre 6% à 8% précédemment. C'est un signal de confiance très positif de la part du management.
Absolument. Mais ce qui m'a vraiment frappé dans l'appel, c'est comment la direction a organisé son discours. Matthew Rentsch, le PDG, n'a pas simplement donné les chiffres. Il a vraiment mis l'accent sur les fondamentaux du modèle économique. Il a parlé de la durabilité et de la défendabilité et des avantages concurrentiels de YTI.
Exactement. Et pour nos auditeurs qui suivent les marchés, c'est important à comprendre. YTI n'est pas seulement une entreprise de bouteilles isothermes pour les amateurs de plein air. C'est devenu une plateforme multicatégorie avec trois moteurs de croissance distincts, les innovations de produits, l'expansion géographique internationale et la diversification des canaux de distribution.
Parlons des catégories de produits. Les ventes de vaisselle à boire ont atteint 217 millions de dollars, une croissance de 5% sur un an. C'est particulièrement important parce que c'était une catégorie qui avait connu des difficultés au cours des trimestres précédents.
Oui, c'est un tournant clé. La direction a mentionné qu'il y avait eu un problème d'inventaire lié au grand format avec paille, mais maintenant, il voit une récupération. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas dû à une seule héros SKU ou produit vedette. C'est vraiment une reprise largement basée sur l'innovation avec les tasses empilables, les bouteilles à siroter, les tasses en céramique et la bouteille ion des shakers.
Et puis il y a la catégorie des glacières et équipements, qui a connu une croissance de 11% à 156 millions de dollars. Les soft-side coolers et les sacs, des tripes et caminos sont vraiment en train de dominer. La direction a noté que la demande dépasse actuellement l'offre dans ces segments.
C'est une situation à haut problème pour une entreprise. Vous avez une demande qui dépasse la capacité de production, mais cela signifie aussi qu'il y a une énorme opportunité. Scott Bomar, le nouveau CFO, a indiqué que la capacité supplémentaire devrait arriver dans la deuxième moitié de l'année, ce qui pourrait être un catalyseur de croissance au second semestre.
Parlons du gros morceau du gâteau, le wholesale. Une croissance de 19%, soit 184 millions de dollars. C'est le meilleur trimestre pour le wholesale en plus de 3 ans. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'alignement entre le sell-in et le sell-through.
C'est crucial pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec cette terminologie. Le sell-in est ce que YTI vend à ses partenaires de vente au détail. Le sell-through est ce que les détaillants vendent aux consommateurs finaux. Pendant longtemps, il y avait un écart, le sell-through était fort, mais les détaillants n'étaient pas pressés de commander, créant un goulot d'étranglement d'inventaire. Maintenant, nous voyons cet écart se fermer.
Exactement. Et la direction a fait une observation très intelligente. Les détaillants qui présentent l'écosystème complet de YTI, pas seulement une catégorie, mais les coolers, les sacs, les équipements de rangement et la vaisselle, voient les meilleurs résultats. C'est vraiment la force du modèle de plateforme.
Maintenant, parlons de la zone de turbulence de ce trimestre, le direct tout consumé. Les ventes DTC sont restées stables à 197 millions de dollars. Mais sous la surface, il y a un problème, les ventes aux entreprises ont baissé en glissement annuel.
Oui, mais la direction a été claire sur le fait que c'était une question de calendrier. Il y a eu des grandes commandes au First Quarter l'année dernière qui ne se sont pas répétées cette année. Mais ils ont noté que Second Quartet montre déjà une amélioration. Cela ne semble pas être un changement fondamental dans la demande.
L'international est aussi une histoire à suivre. Les ventes internationales ont cru de 9% à 87 millions de dollars, mais il y a eu un avantage de change de 800 points de base. Donc la croissance sous-jacente était plus faible, autour de 1%. Mais la direction continue de projeter une croissance de 18% à 20% pour l'année complète.
C'est intéressant parce que First Quartet est généralement le plus petit trimestre pour le segment international. Donc il y a plus de volatilité. Mais en regardant les fondamentaux, l'expansion en Europe, la croissance au Japon, les lancements imminents en Chine et Corée, il y a beaucoup de pièces en mouvement.
Passons aux marges brutes, car c'est où les choses deviennent complexes. Les marges brutes ajustées ont diminué de 2 cents points de base à 55,3%. Mais il y a beaucoup de détails ici.
Oui, les tarifs ont été un headwind majeur, 280 points de base d'impact négatif. Mais il y a eu aussi un changement important dans l'environnement tarifaire que l'on ne trouve pas dans le communiqué de presse initial. Les tarifs IEPA de 20% ont été remplacés par des tarifs de la section 122 à environ 10% en février. Cela a créé un avantage net d'environ 15 millions de dollars.
Mais ce n'est pas gratuit. Les coûts de transport et les prix des matières premières, en particulier la résine, ont augmenté, absorbant environ 2/3 de cet avantage tarifaire. Donc le net est d'environ 5 millions de dollars.
Malgré tout cela, la direction a relevé la limite inférieure des marges brutes. Elles s'attendent maintenant à 56,5% à 57% au lieu de 56% à 57%. La structure par semestre est intéressante, des marges en baisse de 200 points de base en première moitié, puis une expansion de 50 points de base en deuxième moitié.
C'est parce que la deuxième moitié de 2025 était chargée des tarifs IEPA pas élevés. Donc à titre de comparaison, les choses s'améliorent. Le management pense également que cet environnement tarifaire est temporaire, pas structurel.
En bas de l'équation, les revenus opérationnels ajustés ont baissé de 24% à 26,6 millions de dollars. Le BPA ajusté a baissé de 0,31 à 0,26 dollars. Mais encore une fois, il y a un élément tarifaire majeur, environ 0,09 dollars.
Donc si vous enlevez l'impact tarifaire, le BPA aurait été beaucoup plus proche. Et c'est important car la direction a relevé sa prévision de BPA pour l'année. Ils s'attendent maintenant à 2,83 à 2,89 dollars, contre 2,77 à 2,83 dollars précédemment. Cela représente une croissance de 14% à 17%.
Et en parlant d'allocation de capital, ils sont sérieux avec les rachats d'actions. Ils ont dépensé environ 300 millions de dollars en rachats en 2025 et prévoient 100 millions de dollars supplémentaires en 2026. Le conseil a également augmenté l'autorisation totale de rachat à 500 millions de dollars.
C'est vraiment révélateur. Le management est tellement confiant dans ses perspectives qu'il continue à retourner d'énormes montants aux actionnaires. Et ils font cela tout en maintenant une position de bilan solide, environ 425 millions de dollars en liquidité et seulement 70 millions de dollars de dette.
Parlons maintenant de la stratégie à long terme. La direction a présenté trois piliers qu'elle considère comme des avantages durables et défendables. D'abord, la confiance de la marque et l'authenticité. Ensuite, les plateformes de produits évolutives. Et enfin, le modèle omnicanal mondial discipliné.
Et sur cette base, YTI pense pouvoir livrer une croissance en haut simple à bas double chiffre sur le long terme. C'est un algorithme de croissance vraiment intéressant. Ils sont en train de construire une entreprise qui peut croître à cet ordre de grandeur tout en générant des flux de trésorerie plus forts que la croissance du chiffre d'affaires.
L'observation clé du PDG était que YTI n'est pas une histoire à produit unique, canal unique ou géographie unique. C'est une entreprise dirigée par la marque avec des moteurs multiples. Et ce qui est vraiment important, c'est que chaque moteur contribue de manière significative à la croissance.
Exactement. Et ils vont détailler tout cela dans une journée investisseur en septembre. Ils parleront de leur feuille de route d'innovation, du cadre de marge et de la stratégie d'allocation de capital à plus long terme.
En pensant aux implications pour les investisseurs, voici ce que je retiens, YTI a clairement tourné un coin. Le segment drinkware, qui était un problème, montre des signes de stabilisation. Les soft-sides coulèrent et les sacs créent une nouvelle catégorie à forte croissance. Le wholesale valide vraiment la force de la marque. Et le management est très confiant dans ses perspectives, assez confiant pour relever les prévisions et maintenir un programme de rachat agressif.
Et l'international est probablement le plus grand catalyseur à long terme. À seulement 21% des revenus, il y a énormément de place pour que YTI étende sa présence mondiale. La direction parle d'une « runaway » réelle mais encore précoce en international.
Les risques, bien sûr, incluent l'environnement tarifaire et macroéconomique qui pourrait changer. Les ventes aux entreprises pourraient rester plus molles que prévu. Et l'expansion internationale pourrait s'avérer plus difficile que prévu. Mais pour l'instant, la trajectoire semble vraiment positive.
Les chiffres du flux de trésorerie sont également importants à noter. La direction s'attend à un flux de trésorerie libre de 2 cents à 225 millions de dollars en 2026. C'est un bon signal de santé opérationnelle, surtout avec tous les investissements qu'ils font en capacité, en innovation et en expansion mondiale.
Avant de conclure, il est important de souligner que ce trimestre était relativement petit pour YTI, c'est leur plus petit trimestre de l'année. Donc il y a une certaine volatilité. Mais la trajectoire semble claire.
C'est vrai. L'équipe de direction, avec Matthew Rintsch en tant que PDG et Scott Bomar en tant que nouveau CFO, semble vraiment avoir un plan cohérent. Ils ne courent pas après la croissance à court terme. Ils construisent quelque chose de durable.
Et c'est, à mon avis, le plus grand atout. Dans un environnement où beaucoup d'entreprises sont préoccupées par le prochain trimestre, YTI pense clairement à long terme.
Absolument. Et avec cela, nous arrivons à la fin de notre analyse. Avant de partir, Jordan a un dernier message important pour nos auditeurs.
En effet. Tout ce qui a été discuté est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable avant de prendre toute décision d'investissement.
Merci à tous nos auditeurs d'avoir écouté Beta Finch. Nous espérons avoir apporté une perspective utile sur les résultats de YTI. Si vous avez des pensées ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et investissez intelligemment.
À bientôt sur Beta Finch.
C'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela utile, envisagez de soutenir Beta Finch sur Patreon. Votre soutien nous aide à améliorer nos voix et couvrir plus d'entreprises. Visitez patreon.com/betafinch pour en savoir plus. Merci de votre écoute.